Bonjour à tous et bienvenue, 15h TU, 16h à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, Bruxelles accueille un sommet extraordinaire sur la défense européenne et sur l'Ukraine en présence du président Zelensky. Alors que les Américains se désengagent, les Européens sont appelés à surmonter leur division pour prendre le relais. Moscou a vivement réagi aux propos d'Emmanuel Macron hier soir. La France veut, selon la Russie, la poursuite de la guerre à suivre dès le début du journal. La Chine promet qu'elle se battra jusqu'au bout si les États-Unis poursuivent leur guerre commerciale. Elle dénonce un bras de fer qui déstabilise l'économie mondiale. Dans ce journal aussi, la reprise de contacts entre Américains et dirigeants du Hamas, contacts officieux qui irritent en Israël. Réunis actuellement à Bruxelles, les 27 dirigeants de l'Union européenne sont appelés donc à surmonter leur division et à réagir face à l'agression russe en Ukraine. Rester spectateur serait une folie, a dit hier soir Emmanuel Macron dans son allocution. Il a aussi dit vouloir ouvrir le débat sur la protection de l'Europe par le parapluie nucléaire de la France. Ses propos sur la menace que représente la Russie pour l'Europe ont été vivement critiqués à Moscou, où nous retrouvons Anissa El Jabri.
Le chef de la diplomatie russe nomme le chef de l'État français Monsieur Macron. Le porte-parole du Kremlin le cite comme Monsieur le Président. Dans les deux cas en Russie, cela signe une forte mise à distance et cela implique une menace ou du mépris. Les paroles, elles, sont à l'avenant.
Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi lutter contre la Russie, Napoléon ou Hitler, Monsieur Macron n'agit pas très gracieusement.
Ça, c'est le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov qui a répondu aussi à l'argument du chef de l'État français sur l'agressivité russe pour juger que c'est au contraire Paris qui menacerait Moscou.
Bien sûr que c'est une menace pour la Russie. Ils nous considèrent comme une menace parce qu'ils convoquent une réunion des chefs d'État-major des pays européens et de la Grande-Bretagne. Ils disent qu'il faut se préparer à utiliser les armes nucléaires contre la Russie. Alors, bien sûr que c'est une menace.
Quant au porte-parole du Kremlin, il rejette lui encore plus vigoureusement que d'habitude les propositions françaises de peser sur les conditions d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine.
Nous avons lu les propos du président français selon lesquels il entend déployer un contingent en Ukraine après le cessez-le-feu. La Russie peut-elle accepter cela? La réponse est absolument évidente.
Dimitri Peskov, qui ce matin encore avait des mots très aimables pour la diplomatie américaine et son chef Marco Rubio, qui a dit « considérer que le conflit en Ukraine était une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis, nous sommes entièrement d'accord », a dit le porte-parole du Kremlin. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Le conservateur allemand Friedrich Merz est le probable futur chancelier. Il souhaite de lourds investissements en matière militaire. Le sujet a été abordé ce matin à Bruxelles avec le président du Conseil européen Antonio Costa. Lui aussi présent à ce conseil, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien appelle à ne pas relâcher la pression sur Moscou au lendemain d'une frappe russe qui a fait 4 morts dans un hôtel du centre du pays, dans sa ville natale. On reste en Ukraine où un rassemblement a été organisé en urgence ce matin à Kiev pour réclamer que les prisonniers de guerre soient libérés avant toute négociation. Reportage de Cerise Sudrilodu.
La Russie tue ou libérer nos prisonniers, les 200 personnes qui se sont donné rendez-vous devant l'ambassade des États-Unis à Kiev ce jeudi matin ont pris soin de rédiger leur pancarte en anglais. Beaucoup brandissent aussi la photo de leur frère, ami ou fils, disparu depuis des mois. Maria, 35 ans, ne peut retenir son émotion. La jeune femme a fait le déplacement depuis Lviv à 800 km de là pour être présente avec sa mère.
Mon frère est soldat. Il a disparu en décembre 2023, il était à Marinka. Maintenant, ce territoire est occupé et nous ne savons rien de lui. S'ils veulent un accord, qu'ils organisent au moins un échange de prisonniers.
Natalia Epifanova, à la tête de l'association Libérer nos soldats, qui a organisé la manifestation, tente de rester calme malgré sa colère.
Donald Trump veut la paix, nous aussi. Mais sans les retours des prisonniers de guerre et des personnes disparues, cette paix n'en est pas une.
D'autant que si certains parlent de paix, la Russie continue, elle, à attaquer. Dans la nuit, 4 personnes sont mortes en Ukraine suite à des frappes russes. Cerise Sudrilodu, Kiev, RFI.
Radio France Internationale.
15h50, temps universel, des milliers de délégués venus de toute la Chine sont réunis cette semaine à Pékin, où se tient en grande pompe la session annuelle du Parlement. En marge des travaux, les autorités ont réagi au décret de Donald Trump imposant de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises. Ce nouvel acte de guerre commerciale perturbe l'économie mondiale, mais nous nous battrons jusqu'au bout, a réagi le ministre chinois du Commerce. Si vous gardez les otages israéliens, vous êtes tous morts. C'est la menace, dernière menace en date, brandie sur son réseau social Truth Social par le président américain en direction du Hamas. Voilà pour la déclaration publique. Mais en coulisses, on apprend que Washington a ouvert un canal de communication direct pour négocier avec le Hamas. C'est une première depuis près de 30 ans qui irrite en Israël. Les précisions à Jérusalem de Sami Boukhelifa.
Washington a classé le Hamas organisation terroriste en 1997. Depuis cette date, les Américains ne parlent plus au mouvement islamiste palestinien. Changement de méthode, l'administration Trump renoue le dialogue et négocie désormais directement en priorité la libération des otages israélo-américains détenus par le Hamas. Gershon Baskin est lui-même ancien négociateur israélien. Il salue l'initiative américaine.
Les négociations directes sont une bonne chose, mais c'était tabou jusqu'à présent. Donc c'est bien que les États-Unis et briser ce tabou. Mais si les États-Unis négocient uniquement pour libérer les otages binationaux américains, alors là, c'est mauvais signe. Les otages sont otages d'abord parce qu'ils sont israéliens.
Selon le site d'information Axios, ces discussions entre Washington et le Hamas viseraient dans un second temps à faire libérer tous les otages et parvenir à une trêve à long terme à Gaza. Les autorités israéliennes, agacées par ces négociations, se sentent mises à l'écart, rapporte la presse israélienne. Pourtant, Israël ne proteste pas officiellement. Gershon Baskin.
Benjamin Netanyahu ne peut rien dire à Trump. Si Trump dit qu'il envoie son négociateur pour parler au Hamas, alors Netanyahu n'a pas son mot à dire. Celui qui a les cartes en main aujourd'hui, c'est Donald Trump. C'est lui qui décide s'il y a oui ou non un accord pour la libération des otages.
Le bureau du Premier ministre israélien a publié un communiqué très laconique. Israël a fait part aux États-Unis de sa position concernant des pourparlers directs avec le Hamas. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Le ministre français des Outre-mer Manuel Valls est maintenant arrivé à la Réunion, île française de l'océan Indien, frappée la semaine dernière par le cyclone Garance. Le bilan est toujours provisoire, au moins 5 morts et d'importants dégâts dans le nord et l'est de l'île, alors que les habitants sinistrés seraient 50 000. Quant au coût de la catastrophe, la caisse centrale de réassurance l'évalue entre 160 et 200 millions d'euros. Dans l'actualité politique en France, le départ de la maire de Lille, Martine Aubry, maire emblématique depuis 2001, elle annonce sa prochaine démission à un an des prochaines élections municipales en France. Martine Aubry est aussi ancienne ministre associée aux 35 heures. C'est son premier adjoint Arnaud Deslandes qui devrait lui succéder à la mairie de Lille lors d'un conseil municipal le 21 mars. Toujours en France, la concertation sur les retraites proposée par Matignon entre dans le vif du sujet. 4 syndicats de salariés et 3 organisations patronales ont entamé aujourd'hui la première réunion sur le fond du dossier. Un syndicat représentatif des salariés, Force ouvrière, manque à l'appel après avoir quitté la table le 27 février en dénonçant une mascarade. Enfin, Donald Trump et sa politique étrangère pour le moins agressive ont fait une victime collatérale, l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande à Londres. C'était il y a quelques jours. À propos des négociations entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine, le diplomate néo-zélandais s'était permis une sortie jugée irrévérencieuse. Propos un peu moqueurs qui n'ont pas du tout plu dans son pays. L'ambassadeur vient d'être relevé de ses fonctions au nom de la neutralité diplomatique. Récit de Vincent Sorio.
Phil Goff est puni pour une question posée avant-hier lors d'une conférence sur l'Ukraine à Londres. Il s'adresse à la grande invitée de la journée, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, et lui demande si, à son avis, en matière historique, Donald Trump sait de quoi il parle. J'ai relu le discours de Churchill en 1938 après la conférence de Munich lorsqu'il a dit « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur mais vous aurez la guerre ». Le président Trump a fait remettre le buste de Churchill dans le bureau ovale, mais pensez-vous qu'il comprenne vraiment l'histoire ? Rire dans l'assistance, mais indignation à Wellington. La diplomatie néo-zélandaise parle de commentaires décevants qui placent l'ambassadeur dans une position intenable. À ce poste, vous représentez le gouvernement, vous êtes le visage de la Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas un libre penseur. Phil Goff, dont le mandat s'achevait à la fin de l'année, serait déjà en train de faire ses bagages pour un retour précoce dans son pays.
Vincent Sorio, voilà, ainsi s'achève le journal. Prochain rendez-vous avec l'information sur RFI, le journal en français facile, présenté par Diane Berger à 17h. Et tout de suite, Nathalie Amar.